dernier exemple en date, c'était lors d'un meeting à Lyon où Jean-Luc Mélenchon, après avoir tapé sur une partie de la classe politique, tapé sur les médias, à un moment a évoqué l'affaire, la grande affaire Epstein ou Epstein.
S'il s'agit de l'affaire Epstein, ah, je voulais dire Epstein, pardon, ça fait plus russe Epstein, hein. Alors maintenant, vous direz Einstein au lieu d'Einstein, Frankenstein au lieu de Frankenstein. Eh bien voilà, non, tout le monde comprend comment il faut faire.
Oui, tout le monde comprend à quoi il fait référence. En gros, si on dit Epstein, ça serait pour gommer le fait que Epstein est juif. Hein, donc il joue avec ça. C'est exactement, j'ai regardé sur les réseaux sociaux, ce que dit Alain Soral et Dieudonné en disant, bah oui, on nous dit de dire Epstein parce que Epstein, ça fait référence à la communauté juive. On est dans ça. Hein. Il faut dire très clairement, d'ailleurs, à gauche, c'est tout de suite dénoncé. Marine Tondelier dit c'est pas possible, ça va trop loin. Olivier Faure dit on ne peut pas être antifasciste en utilisant finalement des propos, les propos des fascistes. Hier, moi, j'avais fait une comparaison avec Jean-Marie Le Pen. J'avais dit finalement Jean-Luc Mélenchon c'est le nouveau Jean-Marie Le Pen. Alors je sais que sur il y a eu pas mal de réactions, mais Jean-Marie Le Pen faisait aussi des jeux de mots, le dur à four crématoire. Eh bien, Jean-Luc Mélenchon en est là. Alors est-ce que là c'est vraiment la provocation de trop?
32-16 pour le dire au GGO, aux grandes gueules, Antoine.
Je pense qu'il perd les pédales. C'est-à-dire que on n'est même plus dans de la stratégie politique. C'est-à-dire que on a longtemps dit Mélenchon, grand stratège politique, mais là il n'y a plus de stratégie. Ou en tout cas, la stratégie qu'il imagine ne peut pas être payante dans aucun cas. Je l'ai déjà dit à ce micro. On est sur une radicalisation de Jean-Luc Mélenchon au sens où il n'a plus de rationalité.
Mais tu dis perd les pédales.
Acculé, il a perdu toute rationalité et c'est vraiment le côté où tu sais que t'es mal et tu confortes ton petit cercle, tu vois, c'est le bunker, quoi. T'es dans le bunker et tu confortes ceux qui restent autour de toi et tu dis des dingueries.
Dans la salle on rit à ces propos.
Mais oui, mais
on applaudit.
Ils sont tous perdus chez LFI. Et pardon, moi je voudrais pas être de ceux qui à gauche ont pu s'associer à une époque avec LFI, parce que au-delà de LFI, ça rejaillit sur tous ceux qui ont pu s'associer
et qui vont peut-être même s'associer aux élections municipales.
Il y a une trentaine de villes où au premier tour il y a une union de toute la gauche. Hein.
Jérôme. Non, mais en disant il perd les pédales, tu l'excuses quelque part, parce que quand tu perds les pédales, ça veut dire que tu n'es pas maître de tes pensées. Il est tout à fait maître de ses pensées. Il est antisémite, raciste, complotiste, extrémiste. Et il faut le pénaliser. Je rappelle qu'Alain Soral vient d'être condamné à 2 ans de prison ferme pour son comportement.
Oui, parce qu'il y a eu plusieurs condamnations.
Non, mais là, si tu veux, quand tu manies avec réflexion, parce que c'est fait avec réflexion, parce que c'est un orateur, il sait comment on manie une salle, il sait très bien que face à lui, il a des gens qui sont antisémites. Et donc, il lance à la cantonade cette différence entre Epstein et Epstein pour dire effectivement le monde juif détient le monde, ces espèces de vieilles théories, mais qui rejoignent aussi quand on nous dit l'état profond et tout ça, ça rejoint un petit peu tout ça, le grand Rissel, le Great Reset, tous ces trucs-là, quoi. Cette espèce de vieux relent pourri d'antisémitisme bien ancré dans le territoire de France qu'il manie plutôt qu'essayer de le dénoncer. Donc je veux dire, cet homme-là aujourd'hui doit être au banc de la République. Ça suffit, quoi. Moi, j'en ai assez, d'extrême droite ou d'extrême gauche, peu importe, je m'en fous. J'en ai assez qu'on mette en avant des espèces de théories extrémistes qui ne nous amèneront qu'à une chose, c'est à nous foutre sur la gueule. Ça suffit, quoi.
Mais donc, Mélenchon, ça suffit. Dans son cas, c'est le nouvel antisémitisme. C'est pas le vieil antisémitisme de l'extrême droite,
c'est
le nouvel antisémitisme qui parle à une population.
Laurent.
Oui, non. Ce que je trouve déplorable, c'est que j'ai peur que la jeunesse écoute M. Mélenchon. Et je me dis, mais dans quel monde vont arriver nos enfants? C'est-à-dire que, je sais pas, mais moi, quand j'étais lycéenne, comme tous mes camarades de lycée, eh ben, on est gauche parce qu'on est révolutionnaire, on veut changer le monde, on veut que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Et là, en fait, quand tu regardes le palmarès politique de gauche, et tu n'as que des fous, ce ne sont que des fous furieux. C'est-à-dire que moi, je me souviens avoir milité avec mes copines pour pas qu'on fasse mal aux animaux. Je me souviens qu'on avait milité pour plein de sujets écologistes, humanistes. Mais là, en fait, c'est quoi? Et en plus, là où je trouve que tu as tort, Antoine, et que je rejoins Jérôme, c'est qu'il manie les mots. Il écrit ses discours et c'est quelqu'un d'une extrême intelligence et qui sait pertinemment ce qu'il fait. Et comme là, oui, non, mais c'est
donc il perd pas les pédales.
Il perd pas les pédales. En fait, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train de se rendre compte, parce que malheureusement, je pense qu'il y a énormément de personnes musulmanes françaises qui sont en France et qui se sont détournées de Jean-Luc Mélenchon parce qu'il nuisait à leur image en les faisant passer parfois pour des terroristes, vu la manière dont il parle, et c'est lui qui racise les Français. Et comme là c'est en train de glisser, il surfe sur la vague Raphaël Arnaud. Ouais. Et donc maintenant, il alimente ce qui lui reste de team, c'est-à-dire les Antifa, que pour moi, je ne considère absolument pas comme Antifa, ils le sont tout autant que les autres. Et donc là, maintenant, il alimente son nouveau peuple, sa nouvelle communauté. Et je trouve ça dangereux au possible. C'est-à-dire qu'il va encore y avoir des clivages et ça ne va faire que encore. Il va y avoir d'autres décès.
Après, là, il y a quand même une réaction ce matin très ferme d'Olivier Faure, qu'on accusait d'être ambigu avec Jean-Luc Mélenchon, d'avoir une position un petit peu un peu compliquée. Là, très fermement, Olivier Faure dénonce ses propos. Marine Tondelier aussi, on reprochait aux écologistes aussi, parce que les écologistes, ils ont aussi besoin d'une alliance avec la France Insoumise pour avoir des élus. Bon, là, Marine Tondelier, très clairement, a dit trop, c'est trop, ça va trop loin. Donc là, peut-être qu'on est en train d'assister aussi à un tournant à gauche où LFI devient, pour la gauche, ce que le Front National a été pendant longtemps pour la droite, et le RN aussi. Quoique maintenant, à droite, le RN a pris le pouvoir, en quelque sorte, alors que LFI, c'est pas encore le cas.
Moi, je pense qu'il le cherche, Jean-Luc Mélenchon.
Oui, sans doute.
Il veut qu'il se détache de lui pour finalement montrer que les autres. Tu sais, il va dénoncer l'UMPS à son tour, comme le faisait le Rassemblement National. Il va dénoncer tous ceux qui sont dans le système.
C'est ce qu'il a fait encore hier, d'ailleurs.
Voilà, ils veulent l'abattre. Donc, c'est vraiment une stratégie. Est-ce qu'elle est payante, cette stratégie?
Il a cramé les municipales. Il est déjà sur les présidentielles.
Les municipales, c'est pas vraiment un enjeu pour les
Insoumis. Ouais, mais c'est pas un enjeu peut-être, mais quand même, il y a des cycles. Les politiques actuelles, la plupart, ils sont sur les municipales. Lui, il a cramé les municipales, il est sur les présidentielles. Oui. Et effectivement, son calcul, c'est d'ostraciser tout le monde, de mettre tout le monde dans le même panier, comme le faisait le père Le Pen à l'époque. Oui. Effectivement. Donc il est là-dessus aujourd'hui. Et donc il va donner des coups de plus en plus durs, de plus en plus forts. Et si les hommes politiques, dans leur ensemble, ne sont pas capables, encore une fois, de le mettre au banc de la République, on va avoir droit à quelqu'un qui fait du terrorisme intellectuel. Après, parce que c'est ça qu'il fait actuellement.
Ce qui est, on va parler de Jean-Marie Le Pen un peu au banc de la République, entre guillemets. Ça n'a pas empêché l'ascension de Jean-Marie Le Pen. Pour Jean-Marie Le Pen, ça lui a permis aussi d'arriver au deuxième tour de l'élection présidentielle.
Ce qui est assez baroque, c'est qu'hier, je vous raconte les coulisses de notre plateau sur BFM TV, hier, au moment où on va parler de l'affaire Epstein. Ou Epstein. Hier, on a une discussion pendant la pub avec Thierry Arnaud, justement, vous savez, qui est le spécialiste de la diplomatie internationale sur BFM TV, qui a vécu longtemps aux États-Unis. Moi, je lui dis Thierry, je lui dis à un moment, je dis Epstein. Voilà, parce que pour moi, EIN, à l'européenne ou à la française, ça fait Stein. Voilà. Et il me dit, oui, mais comme il est américain, sur les plateaux américains, on dit Epstein. Je lui dis, ouais, mais nous, quand on reçoit, par exemple, la dictologue, le professeur Loewenstein, on dit le professeur Loewenstein, on dit pas le professeur Loewenstein. Donc ça, c'est Frankenstein, Albert Einstein, c'est une discussion. Sauf que la manière dont Jean-Luc Mélenchon
ça n'a rien à voir avec la discussion que nous
on peut avoir. Quoi. Antoine, pardon, je t'avais coupé la parole.
Non mais il y a pas un journaliste qui prononce de la même façon.
Oui, c'est ça.
Epstein ou Epstein.
Personnellement, je dis Epstein.
Sur la prononciation, tout dépend de l'origine de sa famille. S'il vient d'Allemagne, c'est Epstein. Ouais. S'il vient des Pays-Bas, c'est Epstein. Ouais, et donc en réalité, c'est ça le patronyme. Mais là où je voulais revenir, quand je dis qu'il perd les pédales, Mélenchon, j'entends, je l'excuse pas du tout. J'entends votre vision, qu'il y aurait une stratégie, mais cette stratégie, elle ne peut jamais être gagnante. Et donc,
bruit et la fureur, ça lui a permis aussi d'être à 20% deux fois de suite à la présidentielle.
Mais là, c'est trop. C'est-à-dire que même en visant un électorat, tu sais bien que tu rassembles pas 20% des gens sur une base aussi radicale.
Oui. C'est-à-dire que le vote utile à gauche ne pourra pas fonctionner pour lui.
Évidemment.
C'est ce qui avait été le cas il y a ça.
Laura, et puis on va écouter Soufiane au 32-16.
Ce qu'il faut se rappeler, c'est que quand Mélenchon remuait les foules, c'était quand même de l'époque de Monsieur Corbière et de Madame Garrido. Où là c'était.
Qui ont été purgés,
qui voulaient la 6ème République, où c'était des combats pour que les LGBT puissent être complètement admis dans la société, ils voulaient pouvoir qu'à la. l'inscrire à la Constitution, qu'on peut changer. Donc je veux dire qu'il y avait un réel combat que les jeunes pouvaient porter. Enfin, je veux dire, c'est ce qui a amené énormément la jeunesse auprès de Jean-Luc Mélenchon. Le seul problème maintenant, c'est que déjà ça ne fonctionnera pas, sauf que maintenant que les jeunes ont adhéré aux idées de Jean-Luc Mélenchon, lui, et c'est là toute sa dangerosité, c'est qu'il les emmène petit à petit dans une divergence d'opinion qui me terrorise. C'est-à-dire que maintenant, tu dois haïr l'autre, et en plus, tu dois le montrer du doigt, tu dois le pointer. Moi, ça me fait extrêmement peur.
Soufiane est avec nous. Bonjour Soufiane, qui est dans le Nord, il est éducateur. Bonjour, bienvenue. Qu'est-ce que vous pensez de cette polémique, alors, Soufiane?
Est-ce que
vous en voyez une, au moins?
Justement, ça va pas être un secret. J'y vois une énième polémique sur Jean-Luc Mélenchon, et jamais la façon par laquelle on aborde le fond. C'est-à-dire que je sais pas si ceux qui parlent sur le plateau ont écouté la conférence. Ça serait bien d'écouter la conférence et de voir que il y a été question de climat, il y a été question de capitalisme, il y a été question d'emploi. Et à chaque fois, la façon par laquelle on réduit la chose, c'est sur une polémique qui représente 14 secondes sur 1h30 de conférence.
C'est Jean-Luc Mélenchon qui le veut, ça.
C'est lui qui l'a lancé.
Attendez, c'est un homme de médias depuis 40 ans. Il sait exactement ce qu'il fait. Il sait exactement quelle phrase va être choisie. Il sait exactement quelle phrase va être mise en avant. Et il sait exactement quel usage va être fait de cette phrase. C'est pas du tout un raptus, hein.
Alors, je pense que c'est plutôt la façon dont on interprète qui veut ça. C'est-à-dire que lorsque vous avez un individu qui s'exprime et que on extrapole sur Epstein, moi je vous dis à titre personnel, je me fiche de savoir comment est-ce qu'on prononce la chose. Et puis moi, lorsque quelqu'un a eu un scandale comme Epstein, je me demande pas s'il vient d'Allemagne ou d'Hongrie, ça m'est égal en fait. Et à la fin, qu'est-ce qu'on fait? On extrapole à partir de ça pour dire que
c'est une façon d'attirer les électeurs. Et personne n'a parlé sa religion.
Soufiane, on n'extrapole pas, c'est Mélenchon qui lance cette polémique en quelque sorte et qui dit en gros, si les gens prononcent Epstein, c'est pour gommer le fait qu'Epstein était juif. C'est ça qu'il dit. Donc en fait, c'est une remarque antisémite. Non, mais on le comprend. Attends, écoutez Soufiane, on n'est pas complètement débile et tout le monde a bien compris. Il faut être malhonnête pour pas comprendre ce que Mélenchon a voulu dire. Dans ce cas-là, ça sert à rien qu'on discute, parce que il faut être malhonnête pour pas voir que Mélenchon, ou une mauvaise foi, pour pas voir que Mélenchon a voulu faire un gros clin d'œil aux antisémites.
Je suis pas malhonnête, je suis en train de vous répondre. Simplement que lorsqu'on a une conférence d'1h30 et qu'on l'écoute dans son intégralité, je peux vous assurer que 10 secondes, ça n'est pas intéressant. Par contre, lorsqu'on ne s'intéresse qu'aux 10 secondes...
Laissez-moi terminer.
Oui, lorsque, par contre, on ne s'intéresse qu'aux 10 secondes qui nous intéressent, c'est sûr que sur chaque conférence de chaque individu, on peut tout à fait prendre la séquence qui nous intéresse et en faire une polémique. Et je vous donne un exemple.
Donc vous dites que 10 secondes d'antisémitisme, finalement, c'est pas grave. 10 secondes d'antisémitisme... Non, mais je suis désolé, monsieur. Ce que vous dites, c'est grave. 10 secondes d'antisémitisme, peu importe, madame, c'est grave. Il y a des millions de gens qui sont morts. Madame, il y a eu 10 secondes d'antisémitisme. Madame, maintenant, vous voulez pas le reconnaître. Eh bien, c'est votre problème. Madame, mais si tout le monde s'insurge, c'est le cas. Et si Monsieur Mélenchon, il veut se défendre, il a qu'à arrêter de refuser de vouloir revenir sur les médias mainstream, sur les médias de contradiction. Je suis désolé. Ce monsieur est dangereux et ce monsieur a la haine de certaines personnes.
Lorsque vous dites, madame, 10 secondes, alors dans ce cas-là, il faudrait que l'on fasse des polémiques sur les bras qui ont été tendus lorsqu'il y a eu une manifestation la semaine dernière, plutôt que de me couper la parole toutes les deux secondes pour essayer de me faire dire ce que j'ai pas dit. L'antisémitisme, il est à condamner. Et c'est parce que j'estime que l'antisémitisme est à condamner qu'on peut se sentir insulté lorsqu'on dit que c'est pour attirer l'électorat musulman, comme si de fait on était antisémite. On est contre l'antisémitisme, mais on voit bien que j'ai dit exactement le contraire il y a cinq minutes, mais c'est pas grave. Il y a des antisémitismes qui ne déclenchent pas de polémique.
Lesquels,
dites-moi?
La semaine dernière, est-ce que vous avez dit que finalement tout ce qui se passait à l'ultra-droite était de la responsabilité de Marine Le Pen et de ses acolytes? Jamais?
Oui.
Jamais. On ne prend pas des séquences pour essayer de les rendre représentatives.
Il se trouve,
par exemple, que le Rassemblement National a refusé de participer à l'hommage samedi de Quentin, où effectivement il y a eu des saluts nazis. Mais le RN Bardella avait dit mes troupes n'ont pas y participé. Donc on voit quand même qu'il y a d'un côté une volonté, alors peut-être factice, on peut en débattre, Soufiane, d'une volonté quand même de faire le ménage au RN, et alors que de l'autre côté, Jean-Luc Mélenchon se diabolise.
Soufiane, je vous remercie d'avoir été avec nous pour cette discussion, et ça va nous emmener à l'autre discussion maintenant, c'est-à-dire qu'on se retrouve, et vous l'évoquez un peu d'ailleurs, coincé. C'est-à-dire qu'on est coincé entre deux partis qui sont aujourd'hui dans la radicalité, le Rassemblement National et la France Insoumise, et deux partis qui finalement sont en train de donner le tempo de la vie politique. Alors, est-ce qu'on doit choisir uniquement, on est coincé en choisir son camp entre le Rassemblement National et la France Insoumise? Vous venez en parler avec nous au 32-16, mais d'abord, on vous a posé la question sur les réseaux sociaux, la stratégie de Jean-Luc Mélenchon est-elle payante ou non? On va voir ce que vous en pensez. Elle n'est pas payante à 77%.
C'est sûr.
C'est ce que maintenant, on est à 78%. Après, la consultation va vivre tout au long de la journée et vous regarderez le résultat final sur les réseaux sociaux.